Lundi 6 avril 2026, il est 18h et déjà 55 secondes, vous écoutez Radio Campus Paris sur FM 93.9 et sur le web, et 18h cette année encore, c'est l'heure de la relève et même le lundi de Pâques. Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Paris pour votre quinzomadaire radiophonique préféré, ça on l'espère, consacré aux nouvelles voies et aux premières fois, ça on en est sûr. Ce soir on devrait parler de nature et de mythologie, mon invité est romancier. Mais avant de commencer, quel souvenir gardez-vous de vos années lycée? C'est la question que se pose l'écrivain Yegor Gran dans son dernier roman, Retour vers les passés et les années 80, où une bande de garçons fait face à l'ennui d'une scolarité suivant des rails établis. Alors pour mettre un peu de fantaisie, ils vont imaginer que les profs viennent d'une autre planète ou du moins sont contrôlés par des puissances extraterrestres supérieures. Et le jour où leur professeur de mathématiques évoquera, évoquera la planète Zugul, ils seront sûrs d'avoir vu juste. C'est le début de leur enquête où ils noteront tout ce qui confirme leur théorie, et c'est bien connu, quand on cherche des preuves, on en trouve. Derrière cette anecdote, Yegor Gran saisit l'occasion pour faire revivre son adolescence quand l'arrivée du premier Walkman ramené par un père de famille qui est allé au Japon est un événement. Alors je me demande, en disant ce mot Walkman, si ça évoque quelque chose chez l'auditeur vingtenaire. Pour faire simple, c'est l'ancêtre du stream musical, ça marchait avec une cassette. Je crois que plus je vais expliquer, moins on comprendra. Mais c'est aussi une époque où dans une classe de lycée, il pouvait y avoir des élèves soutien de l'URSS, la Russie socialiste et soviétique, enfin l'Union des républiques socialistes soviétiques, et des enfants d'exilés, le père de l'auteur étant un prisonnier politique ayant passé plusieurs années au sinistrement célèbre goulag. Mais c'est bien connu, on n'est pas sérieux quand on a 14 ans, ou 10 ans qu'on est sérieux pour d'autres raisons que plus tard à 14 ans. Les vraies questions sont les copains, les filles pour cette bande de garçons hétéros. La vraie vie est alors au lycée. Ce qui est très réussi dans ce roman, c'est qu'il n'est pas du tout nostalgique. L'écrivain sexagénaire n'a pas du tout l'air d'avoir envie de retourner dans ce temps d'avant, quand d'après certains c'était mieux, forcément mieux. Mais il semble y trouver une confirmation de ce qui fait la trame de son œuvre, la preuve que nous vivons dans un monde décidément étrange et que sans humour ni fiction, nous ne nous sauverons pas. Ça s'appelle Les Explorateurs, c'est signé Yegor Gran et c'est publié chez POL. Bonsoir Benoît Coquille.
Bonsoir.
On dit Coquille ?
Oui,
tout à fait. Après, vous venez d'assister à un parcours sur glace avec dérapage non contrôlé. vous publiez Pas perdu aux éditions Rivage. Pour commencer, je voulais vous dire que je ne sais pas si je vous aurais invité si je n'avais pas lu votre précédent livre que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait Petites choses, et j'ai réalisé qu'il n'était toujours pas sorti en poche.
Si, il est sorti en poche.
Dites-nous chez qui alors ?
Rivage Poche.
Et bien alors, chez Rivage Poche, on peut lire Petites choses. J'ai mal cherché, c'est décidément un début d'émission très réussi. Donc on va parler surtout de celui-là. Vous voulez dire un mot de Petites choses ? Parce que si on peut le trouver en poche, c'est un livre sur les champignons hallucinogènes.
Ouais, sur la découverte d'un champignon hallucinogène au Mexique dans les années 50. C'est une histoire avec assez peu de fiction, basée sur des faits historiques, entre les Wasson, les découvreurs new-yorkais, et Maria Sabina, une chamane du sud Mexique.
Les Wasson qui sont des gens incroyables.
Oui.
Si je me souviens bien, le mari et la femme ont passé leur vie à faire une encyclopédie du champignon.
Oui,
des passionnés
de champignons qui sont allés jusqu'au sud du Mexique rencontrer cette chamane qui pratiquait encore avec le psilocybe et qui ont un peu révélé le secret de ce champignon à l'Occident tout entier, de façon un peu fracassante.
Alors, Pas perdu, c'est un drôle de livre, j'ai trouvé, parce que c'est à la fois... Alors, Pas perdu, c'est votre dernier en date, dernier roman. C'est un roman, je crois que c'est écrit dessus.
Oui.
Parce que c'est à la fois donc très facile à lire, la narration est très fluide, et en même temps, je trouve qu'il est très difficile à résumer. Quand j'ai commencé à écrire l'interview, je me suis dit, mais comment je vais résumer ? Est-ce que je dis que c'est l'histoire de Marlon ? Est-ce que c'est l'histoire d'une bande d'agriculteurs ? Est-ce que c'est une histoire de labyrinthe ? Vous-même, qu'est-ce que vous diriez ? C'est une histoire de quoi ? Il y a tellement d'entrées, on peut me dire que c'est une histoire des masculinités.
Oui. Le plus simple est peut-être de commencer par Marlon, le protagoniste, qui est donc fils d'agriculteur. Ça se passe dans un lieu un peu indéterminé du sud-ouest. Moi, j'ai mis ça dans le Poitou, mais oui. Mais ça aurait pu être la Beauce. Enfin, il me fallait une grande plaine céréalière et des bengabassines pas très loin aussi. Et Marlon est fils d'agriculteur. Le roman démarre lorsque son père lui annonce que la ferme va mettre la clé sous la porte, enfin qu'il est en faillite. Et Marlon, qui est un peu un drôle d'adolescent,
un peu rêveur,
très créatif, fan d'anagrammes, de palindrome, de labyrinthe, ouais, qui dessine beaucoup, propose à son père de transformer un des champs de maïs en labyrinthe, comme ça se fait un peu au bord des départementales l'été, comme des espèces de petits parcs d'attractions pour enfants. Sauf que lui, il va construire un labyrinthe voilà, un peu prodigieux, gigantesque, qui va attirer un peu tout le monde dans la région.
Enfin, et... Au début, il attire pas tout le monde.
Oui, au début, non. Ça met un certain temps.
Ça met un certain temps, pardon. Enfin, je vous raconte pas l'histoire à votre place, pardon. C'est votre
non, voilà. Et puis, en fait, mon idée de départ, ça, on l'apprend petit à petit, c'est que ce labyrinthe-là va être un peu la figuration de son placard, entre guillemets, d'un chemin sinueux du coming out, quoi. Parce qu'il se rend compte qu'il est attiré par les hommes petit à petit, grâce aussi à sa meilleure amie Mélinée, qui elle est déjà ouvertement lesbienne, et l'encourage à s'émanciper. Donc c'est un parcours d'émancipation qui va passer par cet étrange objet du labyrinthe de maïs qui va, voilà, prendre différentes valeurs. Et puis
alors moi, j'aime bien savoir comment on fabrique un objet, comment on fabrique une histoire. À la base, c'est quoi? Vous avez l'idée du labyrinthe, vous avez l'histoire du garçon à la campagne, vous avez, je sais pas, le maïs, une passion pour le maïs, je sais pas, parce que vous avez écrit sur l'Amérique du Sud, et je crois que vous êtes docteur en littérature sud-américaine.
Oui, ça n'a pas grand chose à voir avec le Mexique, c'est vrai, à part le maïs, ouais.
C'était une blague.
Oui, non, mais ça pourrait être un fil rouge. À la base, je pense que j'avais des idées très théoriques, un peu trop d'ailleurs. Je voulais écrire sur le coming out, ou en tout cas, travailler sur un personnage queer et croiser cette idée d'une existence queer en émancipation avec des questions environnementales. Je venais de lire un essai de Cille Sermolpois qui s'appelle Écologie déviante, qui essaye de croiser un peu ces approches-là, disons LGBT et écolo, et qui est très intéressant. Je me suis dit là-dessus, il y a une matière narrative très riche. Et donc je patinais un peu, ça faisait des mois que j'essayais d'écrire, j'ai entamé l'écriture d'un autre roman que j'ai pas terminé, et puis je suis passé devant un labyrinthe de maïs, en fait, en voyage à vélo.
Ça existe vraiment?
Ça existe vraiment, oui, oui, oui. Ça existe même pas mal en France, hein. C'est surtout aux États-Unis, mais ça s'est exporté jusqu'ici. Et moi c'était en Bretagne, il y en a dans le sud-ouest aussi, là où il y a des champs de maïs massifs, il y a des labyrinthes de maïs. Et du coup, voilà, l'idée est venue de là, quoi.
Il y avait cette idée aussi, je vous cite, hein, je cite les auteurs, moi, que il y a un moment, vous écrivez, je n'avais pas pensé que des mauvaises herbes puissent avoir des noms si étranges et si beaux. C'est ça le rapprochement entre le queer et la nature?
Ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça sur les existences rudérales, on va dire. D'ailleurs, je crois que si le Sermopo a travaillé aussi là-dessus. Les existences des mauvaises herbes, dites mauvaises, dont on n'aperçoit pas la beauté, enfin, qu'on cherche à éliminer, et puis un peu ce lien entre la norme identitaire ou sexuelle et la norme agricole presque, comment la monoculture pourrait être vue aussi comme une forme de normativité. Et comment Marlon se rapproche un peu spontanément des mauvaises herbes, de l'hybridité, voilà. Il y avait un peu cette idée-là, quoi, un peu vague, mais ouais.
Dans votre livre, il y a ce labyrinthe qui est ce qui fait tenir tout ensemble. Mm-hmm. C'est comme ça que vous l'avez construit, avec ce labyrinthe, parce que vous parlez aussi bien de... J'avais fait une liste, et je ne sais pas si je vais la reprendre, mais j'ai déjà un peu dit, il y a coming out, crise agricole, amitié lycéenne, masculinité avec un S, mythologie, appui de rencontre numérique, drone, plantes végétales, courbe écologique, ouais. Tout ça est très... On pourrait dire que c'est des sujets de 20 romans, ouais. Et ce qui fait tout tenir, c'est le labyrinthe. Alors, oui. On pense plutôt que le labyrinthe, c'est l'endroit où on se... Alors que là, vous, c'est là où vous vous trouvez presque. Enfin, vous trouvez le roman, en tout cas.
Oui, c'est ce qui me permet de tout rassembler, ouais, toutes les pistes, tous les sujets. Alors après, c'est aussi le lieu où on va se perdre. Hein. Alors peut-être moins le lecteur que le personnage, mais malgré tout, je pense que la fin est un peu sinueuse et on ne sait pas forcément où on va. Mais oui, en tout cas, c'est le lieu qui me permettait d'associer le père et le fils. L'un pour son champ de maïs, pour parler de comment il l'exploite, quel tracteur, quel pesticide il épand chaque année, etc. Et le fils qui, lui, en fait une œuvre d'art, en fait. Je trouvais ça intéressant que ce soit un objet hybride, quoi, qui appartienne aux deux. Et que le fils, dans son émancipation, il soit pas juste à claquer la porte et à partir immédiatement, mais à faire quelque chose de ce terrain commun qu'ils ont tous les deux, quoi.
On dit un mot de sa mère, de Marlon.
On peut.
C'est très joli, vous dites qu'elle est un flot. Elle fait l'eau de thé.
Oui,
je trouve ça très joli.
Elle s'appelle Florence, tout le monde la surnomme Flo, et puis lui a un petit chapitre où Marlon, qui est le protagoniste et le narrateur, dit « Ma mère est un Flo, elle ne fait que passer comme ça, parce que sa mère est une femme des mers qui travaille comme infirmière embarquée sur les bateaux, et qui est partie depuis longtemps, qui a quitté la ferme parce que ça lui allait pas du tout d'être ancrée comme ça, comme une plante elle-même dans un champ. Elle était faite pour naviguer. Donc c'est une figure assez absente. Je voulais me concentrer vraiment sur cette relation père-fils. J'avoue que ce personnage de la mère, il est lointain, mais
il est joli.
Mais j'ai bien aimé écrire ce petit chapitre sur elle, ouais.
Et est-ce que, pour revenir à vous, quand vous écrivez ce livre, vous prenez tout ce que vous savez à un moment, ou est-ce que vous avez fait des recherches particulières? Parce que j'ai vu que vous avez fait une conférence à la Fondation Jean Michalski, j'espère avoir bien prononcé.
Jan Michalski.
Michalski, en Suisse, qui s'appelait Rêver dans les archives. Et ce titre, je me suis dit qu'en fait, des archives, c'était aussi un labyrinthe. Mm-hmm. Alors que si vous aimiez passer votre temps dans les archives, c'est peut-être aussi une manière de construire le livre.
Ouais, alors cette conférence-là, c'était mes archives à moi. J'ai ressorti un peu toutes les images que j'avais sur mon ordi.
Elle est en ligne, on mettra le lien sur le site.
Ouais, c'était sur mes deux précédents livres, surtout. J'avais ressorti toutes les images, c'était beaucoup d'images qui m'ont aidé à écrire. Après, je dirais que Pas perdu, c'est peut-être le livre le moins archivistique, le moins documentaire des trois que j'ai écrits, puisque avant
vous avez toute cette connaissance de la faune, par exemple, c'est très savant sur la faune.
Non, là-dessus, je me suis renseigné, mais ça, en fait, c'est quelque chose que je ne me vois pas faire quand j'écris. Enfin, je suis toujours avec.
Faut que vous appreniez quelque chose pour que ce soit intéressant.
Ouais, je pense que ça me stimule dans l'écriture. Et puis là, effectivement, toutes ces listes de noms de mauvaises herbes, j'ai adoré les lire et les recopier.
C'est très poétique.
J'ai lu quand même un essai en particulier qui s'appelle La Plaine de Élie Gatien aux éditions Amsterdam, qui parle de l'agriculture intensive. C'est des portraits d'agriculteurs dans la Beauce. Mmh. Et c'est passionnant sur leur aliénation aux syndicats, aux banques. À l'industrie chimique. Donc j'ai pas mal puisé là-dedans. Et
par exemple, sur l'histoire de l'art, c'est des tableaux que vous connaissiez déjà? Parce que c'est pareil,
ouais,
c'est très
beaucoup,
ça.
Ouais. Ouais.
Je tiens à dire, ça, on peut faire croire que c'est érudit, pas du tout. Ça se lit de façon très, c'est très fluide dans le texte. Mais là, c'est plus ce que vous connaissiez déjà.
Oui, c'est quand même des tableaux assez connus pour certains. Qui font partie un peu comme ça de ce qu'on pourrait attendre d'un futur étudiant en beaux-arts qui se confronte au classique. Mais c'est des tableaux que j'aime bien, que j'ai déjà rencontrés. Notamment un tableau qui est cité dans les remerciements, parce que je le connais, par William Marx, qui a écrit un Savoir gay, qui est un petit livre sur qu'est-ce que c'est qu'être gay en tant que regard sur le monde. Et il a un petit crush pour un des personnages de Velázquez, de La Forge de Vulcain. Et j'ai transféré ce crush de William Marx à Marlon. Donc il fallait que je le cite quand même. Mais oui, je les connais par différents moyens, quoi, tous ces tableaux. Ouais.
Est-ce qu'il y a aussi une volonté de montrer que, contrairement à une idée reçue, le monde rural est au moins aussi riche que le monde citadin, qui est celui qu'on voit beaucoup dans les romans, dans le cinéma? En fait, on s'aperçoit, là, tout à l'heure, quand je faisais cet inventaire, qu'il y a beaucoup de... Il s'y passe beaucoup de choses.
Oui. Alors,
même s'il y a une partie de fictionnel, mais même tous ces personnages qui sont mêlés, qui se croisent, ça vous intéressait aussi le monde? Enfin, je ne sais pas quel rapport vous entretenez à la campagne.
Moi, j'ai grandi à Brest, mais en périphérie de Brest, dans du périurbain. Donc, ces paysages d'agriculture intensive aussi en Bretagne, je les connais quand même bien. Il y a un petit chapitre où je dresse comme ça une liste des passions de Marlon pour le paysage, pour ce qu'on voit depuis les bords d'autoroute, donc les magasins de poterie géantes, tout ce genre de paysage un peu
ouais. Voilà, je vais le citer parce que je l'avais noté, c'est page 42, je crois. C'est ce qu'il dit qu'il aime bien dans son paysage.
Ouais.
Je vais peut-être pas tout lire, mais vous dites le magasin de poterie, la forêt de nacelles télescopiques dressées vers le ciel, le bowling, le pharaon en forme de pyramide, c'est au milieu de la zone commerciale, pas loin du totem du Buffalo Grill, les sculptures éphémères en bottes de foin dans les champs, souvent deux humanoïdes, un homme et une femme en pile de round balls, je parle très bien anglais, pour annoncer un mariage avec à leurs pieds une page peinte qui dit quelque chose comme Lola plus Didou. C'est une manière de regarder le paysage aussi.
Oui, c'est ça. C'est un peu réenchanté aussi, ce paysage-là qu'on dénigre complètement. Ça, pour le coup, je me suis pas mal inspiré de d'un photographe qui s'appelle Rick Tabouki, qui a écrit une série de livres qui s'appelle ARN, Atlas des régions naturelles, qui sont des photos uniquement de ce genre de choses, de bizarreries, de bord d'autoroute. Où il a fait une espèce d'encyclopédie de la France qu'on ne voit plus parce que très banale. Et c'est des photos magnifiques, à mon sens. Donc j'ai pas mal puisé là-dedans quand j'écrivais.
Pour imaginer, c'est pas un endroit qui existe vraiment, c'est un endroit que vous avez imaginé.
Oui, c'est un endroit composite. Ouais.
Il y a un moment, vers les deux tiers du roman, il y a aussi une vieille dame qui cherche le paysage de son enfance, mm-hmm, et qui ne le retrouve pas. Ce qui montre aussi que lui, ses souvenirs et ce paysage auquel il est attaché. Alors lui, c'est Marlon, hein, Marlon qui est attaché à un paysage qui est son paysage d'enfance. Il s'aperçoit d'un seul coup que finalement ce paysage-là remplace déjà un autre paysage auquel cette femme est attachée. Là aussi, vous vouliez montrer que le paysage évolue toujours, forcément.
Alors à ce moment-là, je crois que j'étais en train de lire autre chose encore, mais de rien, il y a quand même pas mal de livres qui ressurgissent.
Mais on ne voit pas du tout quand on lit, parce que je suis encore à le dire, il y a une vraie fiction dans laquelle on est emporté.
Ouais. Bah, tant mieux, en tout cas à ce moment-là je lisais...
On sent que c'est riche et irrigué, donc c'est pas étonnant.
C'était Champ de bataille, la BD de Inès Leroux, je crois, si je me trompe pas. Mmh. Journaliste qui a fait un grand reportage sur les algues vertes il y a quelques années, et une BD, et là c'est sur le remembrement agricole, qui se passe depuis les années 50 en France, et à quel point ça a été extrêmement brutal pour les paysages, pour les agriculteurs, pour tout le monde. Et ouais, j'aimais bien l'idée qu'il y a un personnage comme ça, témoin d'une époque passée, qui rappelle à tout le monde que cette plaine de monoculture n'a pas toujours été comme ça, qu'il y avait des arbres fruitiers et probablement un ruisseau, parce qu'on est dans le Poitou quand même et que c'est une région où l'eau coule. Je trouvais ça assez beau, l'idée du paysage perdu, quoi, et qu'elle vienne comme ça.
Vous êtes quelqu'un de nostalgique, vous ?
Oui, si, globalement, je pense qu'on peut dire ça comme ça, mais j'ai pas tellement pensé à moi. Il me fallait quelqu'un d'une époque ancienne, à un moment.
Parce que Marlon, à l'inverse, est complètement d'aujourd'hui. On est à la campagne, mais il y a donc, comme j'ai dit, il y a des drones, il y a les applis. Les applis, le problème qu'il a, c'est qu'il rencontre pas grand monde, parce qu'il n'y a pas grand monde sur l'appli.
Ouais.
C'était l'idée de montrer aussi une autre campagne que celle qu'on peut imaginer.
Ouais,
quand on est en ville, en tout cas.
Ce qui me tenait à cœur, c'était de pas avoir jeter un regard caricatural sur la campagne. Ça, vraiment, ça a été une crainte et un souci tout du long. Mm-hmm. C'est vrai que mes agriculteurs, notamment le père, là, bon, c'est un peu un patriarche, quoi, un peu un mâle alpha, mais il est un peu contrebalancé par d'autres figures. J'ai essayé de traiter un peu la nuance. Tout en montrant que s'affirmer dans un milieu quand même mine de rien assez viriliste, c'est pas facile, c'est pas un parcours d'émancipation urbain, donc c'est pas aussi
il y a des mascus on appelle ça cherchant des survivalistes pas très sympathiques.
Oui
je vous cite encore, il y a un moment où vous parlez de ces paysages et vous écrivez, alors il faut juste que je retrouve le début de la citation, pour relier au plus vite les points A au point B. Donc il dit « Je dessinerai l'espace le plus sinueux, la route la moins efficace possible pour rejoindre B depuis A, le plus long chemin, la plus forte densité de carrefour, d'impasse et d'embranchement, un endroit pas rentable où le temps s'allonge, se perd. » Il y a cette idée dans le labyrinthe qui est un endroit non rentable, parce que là on revient aussi à votre, peut-être la vôtre, ou en tout cas celle du personnage et des personnages écologistes du roman.
Oui.
Et cette idée qu'un paysage c'est pas fait pour être rentable.
Un petit peu, en tout cas c'était plutôt par contraste avec ce paysage très,
très carré,
rentable,
très...
où tout est rectiligne, il y a des voies rapides qui passent. Suite au roman Bremont dont je parlais tout à l'heure, les champs sont devenus impeccablement droits parce que chaque centimètre carré est rentable précisément. Donc c'était un peu comment construire une utopie au milieu d'un paysage productiviste, quoi.
Alors là, attention, je tente la transition de l'année. il aime la musique, Marlon, qu'est-ce qu'il pourrait écouter?
Et bien à un moment il écoute Eye in the Sky de Alan Parsons Project.
Et bien il écoutera pas ça ce soir. On va écouter autre chose. We'll be right back. Voilà, on ne sait pas si Marlon l'écoute, mais ça s'appelle Teenage Dreams et c'est signé Kids Return. Je sais pas ce que je regardais hier, je me disais qu'il était déjà 18h24 et 28 secondes et que ma passion d'annoncer l'heure devait dire que j'avais un rapport bizarre avec le temps, mais tout le monde s'en fiche, donc c'est pas grave. On est toujours avec vous, Benoît Coquil,
oui.
Et votre roman Pas perdu chez Rivage. Alors en général, j'aime bien demander aux auteurs qui viennent quels sont leurs auteurs préférés, quels sont ceux qu'ils ont relus en écrivant leur livre. Vous, là, c'est facile, c'est Rimbaud.
Oui. Oui. Qui était déjà présent un tout petit peu dans les précédents.
Qui est présent d'ailleurs là dès l'Incipit, avec cette phrase mystérieuse, j'ai seul la clé de cette parade sauvage. Est-ce que vous aussi, c'était pour indiquer que vous étiez le seul à avoir la clé ?
En fait, je suis retombé sur ce vers, je me suis dit, mais voilà, ça va être le vers qui nous fera rentrer dans le livre avec cette histoire de clé.
Et de parade sauvage, il y a un côté parade sauvage à la fin, peut-être.
Au début, il est question de clé, la clé sous la porte, et puis après, de clé de soi-même, ou une clé qui permet de se situer ou de se retrouver. Et puis à la fin, ça se termine clairement en parade sauvage, oui.
Rimbaud. C'est toujours une référence indépassable. J'ai regardé, ça fait plus d'un siècle qu'il est mort. Qu'est-ce qui fascine encore ? C'est son œuvre, sa vie, les deux ? Il pourrait être. Oui. Vous diriez que Marlon pourrait être un Rimbaud moderne ?
En fait, ça me faisait rire d'imaginer, de confronter mon protagoniste qui a à peu près le même âge que le Rimbaud mythique qui écrit tout ce qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, qui se confronte en plus, qui emprunte les illuminations, qui trouve ça très beau et qui. À vous qui n'y comprend pas grand chose, mais qui le transporte dans sa poche, comme un viatique là, pendant tout son été, y compris dans le labyrinthe, c'est un des seuls objets qu'il emporte. Et il les graine comme ça, quelques vers. Je trouvais ça assez drôle de se confronter avec ce mythe qui va avec toute une image d'Épinal d'un paysage, de l'aube d'été. Sauf que lui, mon Rimbaud à moi, Marlon, bon déjà il a un prénom ricain, et puis il grandit au milieu du maïs transgénique. Et
il va peut-être faire les beaux-arts donc.
Bon. Oui, alors il s'échappe a priori, c'est son dernier été à la ferme, mais donc on suppose qu'il y a un horizon d'émancipation à venir, mais le dernier été qui passe, un peu rimbaldien, il n'est pas tant que ça. Quoi.
J'en profite parce que j'ai oublié de noter le nom de l'auteur et... Si par hasard il tombe sur cette émission, qu'il me pardonne. Il y a une très très belle BD chez Gallimard, bande dessinée, qui est consacrée, qui est une biographie de Rimbaud en deux volumes, qui s'appelle, je crois, Le Voleur de Feu. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des images incroyables qui pourraient être des images, en tout cas, qu'il regarde. Mais vous, personnellement, c'est la mythologie rimbaldienne du personnage, ou c'est sa poésie d'abord que vous aimez, ou les deux ? Vous avez le droit de dire les deux, hein, ou peut-être autre chose
Je dirais qu'aujourd'hui, c'est le côté insondable de quelques-uns de ces vers qui sont des énigmes.
Et de sa vie. Parce que c'est quand même une vie qui est un mystère. Enfin, je réponds encore une fois à votre place.
Après, moi, j'ai beaucoup aimé Rimbaud le Fils, par exemple, de Michon. C'est un de mes livres préférés. Donc, je pense que le mythe Rimbaud, il est très présent aussi. Hein.
Est-ce que c'est impressionnant à un moment, vous insérez des vers de Rimbaud dans votre texte. Alors, est-ce que là, on a peur en se disant, est-ce que je tiens la route à côté que,
oui.
Vous avez fait ça en vous disant, je m'en fiche, après tout, ça me fait plaisir. Et ce qui compte d'abord, c'est de me faire plaisir parce que c'est mon livre. Ce qui s'entend. Hein.
Les deux à la fois, l'un puis l'autre, je dirais. Effectivement, on se dit, oula, je suis en train quand même d'entretisser mes phrases à moi, mon vers libre à moi, avec des vers de Rimbaud. Est-ce que c'est pas un peu prétentieux ? Et puis bon, en fait, je trouvais que ça marchait pas trop mal. Je l'ai pas fait sur des pages et des pages quand même, c'est juste quelques lignes. Et puis c'est Marlon qui est en train de se réciter un peu ces vers qu'il a appris par cœur, là, donc je trouve que ça passait, j'avais le droit.
Mais vous avez eu peur ou pas, à un moment ?
Peur de citer Rimbaud ?
Ouais, de se dire l'écart.
Non, pas tant que ça, non. Je crois qu'il faut un peu démythifier aussi, ces auteurs.
Vous êtes, par ailleurs, je l'ai un peu dit tout à l'heure, vous êtes docteur en littérature sud-américaine. Est-ce que cette. Qui est donc le domaine. Est-ce qu'il y a quelque chose de sud-américain pour vous dans ce roman ?
Je dirais que c'est le moins sud-américain de ce que j'ai écrit jusqu'à présent.
Oui, parce que les deux autres, alors, pardon, je vous coupe la parole. C'est vrai que j'aurais dû le dire. Le premier, je vais pas le dire parce que je sais pas prononcer le nom de la capitale de l'Argentine.
Ah, on peut dire Buenos Aires en bon français.
Je veux dire, Buenos Aires n'existe pas chez Flammarion, si je me souviens bien. Et le second, donc, on l'a cité tout à l'heure, je ne le connais pas par cœur, c'est celui sur les champignons.
Petite chose.
Petite chose et chez Rivage. Ouais. Ces deux-là, ils étaient très, très sud-américains.
Oui, complètement ancrés là-bas.
Ils se passaient là-bas. Mais est-ce que là, quand même, malgré tout, il y a quelque chose dans votre inspiration, dans votre manière de raconter? Et d'abord, qu'est-ce qu'il y a une littérature sud-américaine? C'est peut-être un cliché d'européen de penser que cette littérature-là est différente?
En tout cas, j'ai pas tellement pensé à un auteur en particulier. Après, maintenant que je suis amené à parler de ce livre un petit peu, on me dit, mais ton labyrinthe, est-ce que ce serait pas du Borges enfoui, qui a complètement tellement infusé en moi que je m'en aperçois plus? C'est possible, parce que en fait, dans mes souvenirs, un des premiers textes latino-américains, argentins que j'ai découvert, c'était une nouvelle de Borges que je trouve magnifique, qui s'appelle La demeure d'Astérion, et qui est très courte, hein, c'est une page où c'est le Minotaure qui raconte sa vie dans le labyrinthe en tant que prisonnier, et qui n'attend qu'une chose, c'est que quelqu'un vienne le tuer pour le délivrer de cette solitude extrême dans le labyrinthe. Donc il y a peut-être un peu de Borges, effectivement, grand écrivain de labyrinthe, mais j'y ai pas pensé tant que ça, en fait.
Il y a un moment, vos deux personnages, je vais pas y arriver, il s'appelle pas Melvin, il s'appelle Marlon et Mémel.
Mémel,
on n'a pas beaucoup parlé d'elle. Alors que c'est un très beau personnage, et sa mère aussi un très beau personnage. Ils sont très beaux, vos personnages, vous les aimez tous?
Sauf peut-être
le méchant.
Oui, mais les méchants, je les laisse un peu à distance. Voilà.
Alors, ils ont l'idée qu'au moment où ils lancent cette idée de labyrinthe, et ils parlent avec une IA, et donc ils demandent à cette IA, tu crois que c'est n'importe quoi cette idée de labyrinthe? Et l'IA répond, très certainement, mais c'est une belle idée. Est-ce que c'est pas une définition de la littérature, ça?
peut-être
une idée n'importe quoi, mais c'est du moment que c'est une belle idée, c'est...
Oui, je me suis amusé un petit peu. Il y a deux passages où il dialogue avec, je l'appelle le robot dans le téléphone. Je sais que Laura Vasquez l'a appelé l'intelligence avec une majuscule dans son dernier livre. Ça me faisait marrer de les imaginer dialoguer avec leur chat, qui leur répond n'importe quoi, hein, d'ailleurs.
Oui, bah en même temps, c'est ce que c'est.
Oui, mais qui est, je pense, plus amusant qu'en vrai. Un peu moins.
Le vrai
moins ennuyeux.
Plus ennuyeux.
Ouais.
Vous allez reprendre celui que vous avez laissé en plan, là, maintenant?
Je sais pas trop.
Vous savez pas, vous avez un nouveau texte, d'autres envies?
Des envies assez floues encore. J'ai pas de chantier qui a repris concrètement, là, pour l'instant.
Très bien. Merci beaucoup, Benoît Coquille. Votre roman s'appelle Pas perdu, c'est chez Rivage. Vous l'avez compris, c'est à la fois très riche, mais je le redis, c'est d'abord un livre très, très agréable à lire. Et alors, je ne sais pas, je me dis que ça peut vous vexer aussi qu'on dise ça. Mais en tout cas, c'est un récit dans lequel on se laisse emporter, dans lequel on ne se perd pas tant que ça, finalement. Mm-hmm. On arrive à vous suivre assez bien. Et j'espère qu'on vous aura donné envie de le lire. Voilà, c'était La Relève, préparée, présentée par Christophe. La réalisation était réalisée, ça tombe bien, mais elle était surtout assurée par Gustave. Vous pourrez retrouver bientôt cette émission et toutes les précédentes sur le site de Radio Campus Paris. RadioCampusParis.org, moi j'allais me boucher. Et puis voilà, passez une bonne soirée et à dans 15 jours. Bonne soirée.